Le psaume 19 en entier. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Le firmament proclame l'œuvre de ses mains. Le jour en prodigue au jour le récit. La nuit en donne connaissance à la nuit. Ce n'est pas un récit, il n'y a pas de mots. Leur voix ne s'entend pas. Leur harmonie éclate sur toute la terre et leur langage jusqu'au bout du monde. Là-bas, Dieu a dressé une tente pour le soleil. C'est un jeune époux sortant de la chambre, un champion joyeux de prendre sa course. D'un bout du ciel, il surgit, il vire à l'autre bout et rien n'échappe à sa chaleur. La loi du Seigneur est parfaite, elle rend la vie. La charte du Seigneur est sûre, elle rend sage le simple. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils rendent joyeux le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il rend clairvoyant. La crainte du Seigneur est chose claire, elle subsiste toujours. Les décisions du Seigneur sont la vérité, toutes elles sont justes. Plus désirables que l'or et quantité d'or fin, plus savoureuses que le miel nouveau. Ton serviteur lui-même en est éclairé, il trouve grand profit de les garder. Qui s'aperçoit des erreurs ? Acquitte-moi des fautes cachées. Éloigne aussi ton serviteur des orgueilleux qui n'aient pas d'emprise sur moi. Alors je serai parfait et innocent d'un grand péché. Que les paroles de ma bouche et le murmure de mon cœur soient agréés en ta présence, Seigneur, mon roc et mon défenseur. Voilà, c'était la lecture du psaume 19 avec lequel je voulais vous accueillir, chers amis, frères et sœurs. Ce psaume nous chante la gloire de Dieu, de sa création et de la loi. Voilà, ici, tout est harmonie, je ne sais pas si vous avez réalisé, et comparé même à du miel nouveau. Tout un chacun est ainsi éclairé par Dieu, qui est, comme le dit la conclusion, le roc et le défenseur. Que Dieu ainsi chanté soit inscrit dans vos cœurs, c'est lui qui nous accueille pour vivre de sa présence et de sa parole. Comme l'écrit l'apôtre Paul, Dieu ne fait exception de personne. Nous sommes tous sous son regard, et donc, quelles que soient nos appartenances, nous avons notre place pour ce culte de l'Ascension. Soyez donc les bienvenus pour vivre et partager ce moment mis à part, malgré des circonstances particulières et parfois tragiques. Pour certains, évidemment, vivons l'Ascension comme un moment d'espérance. Je vous invite à prier Dieu. Père, nous voudrions nous inscrire dans la suite de ce psaume 19 et chanter tes louanges. Mais pour chanter tes louanges, il faut nourrir notre pensée, nourrir aussi notre foi. Et nous avons pour cela besoin de ta parole et du témoignage de l'Écriture. Père, au moment de partager l'Écriture, ouvre nos cœurs à cette Écriture, que nous puissions épuiser de la force, de la joie et de l'espérance selon ta volonté. Amen. Et je vous invite à entendre trois textes pour ce jour de l'Ascension. Le premier, c'est dans la Genèse, au chapitre 1, voilà, les versets 26 au chapitre 2, verset 3. Donc, chapitre 1 de la Genèse, verset 26 au chapitre 3, etc. Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il soumette les poissons de la mer, des oiseaux du ciel, les bestiaux, toute la terre, toutes les petites bêtes qui ont vu sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, mâle et femelle il les créa. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds et prolifiques, remplissez la terre, dominez-la, soumettez les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et toute bête qui remue sur la terre. Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe qui porte sa semence sur toute la surface de la terre et tout arbre dont le fruit porte sa semence, ce sera votre nourriture. À toute bête de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui remue sur la terre et qui a souffle de vie, je donne pour nourriture toute herbe mûrissante. Il en fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, voilà, c'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, sixième jour. Le ciel, la terre et tous les éléments furent achevés. Dieu acheva au septième jour l'œuvre qu'il avait faite. Il arrêta au septième jour toute l'œuvre qu'il faisait. Dieu bénit le septième jour et le consacra, car il avait alors arrêté toute l'œuvre que lui-même avait créée par son action. Telle est la naissance du ciel, de la terre et de leur création. Un peu plus loin, toujours dans la Genèse, au chapitre 5, le verset 21 à 24. Enoch vécut 65 ans. Il engendra Methuselah. Après avoir engendré Methuselah, Enoch suivit les voies de Dieu pendant 300 ans. Il engendra des fils et des filles. Enoch vécut en tout 365 ans. Ayant suivi les voies de Dieu, il disparut, car Dieu l'avait enlevé. Et puis, bien évidemment, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 1, les versets 6 et suivants, 14. Ils étaient donc réunis et avaient posé cette question. « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Il leur dit, « Vous n'avez pas à connaître les temps et les moments que le Seigneur a fixés de sa propre autorité, mais vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » À ces mots, sous leurs yeux, il s'éleva et une nuée vient le soustraire à leur regard. Comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que deux hommes en vêtements blancs se trouvèrent à leur côté et leur dirent, « Jean de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Ce Jésus qui vous a été enlevé pour le ciel viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Quittant alors la colline appelée Mont des Oliviers, ils regagnèrent Jérusalem. Cette colline n'en est distante qu'un chemin de sabbat. À leur retour, ils montèrent dans la chambre haute où se trouvaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude fils de Jacques. Tous unanimes étaient assidus à la prière avec quelques femmes dont Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Père, ta parole est vérité, sanctifie-nous par la vérité. Amen. Voilà, je vous invite à revenir un petit peu sur ces textes que nous avons lus pour ce culte de l'Ascension. D'abord, je voulais dire que l'Ascension, bon, c'est une fête de printemps incontestablement, puisqu'on se situe 40 jours après Pâques. Alors, au départ, dans l'Église primitive, la fête de l'Ascension était jumelée avec la Pentecôte. Les deux fêtes n'étaient pas séparées. Hein, ce n'est qu'au IVe siècle qu'on a séparé les deux fêtes pour des raisons théologiques. On a fixé arbitrairement le jour de l'Ascension 40 jours après Pâques, hein, ce qui est un chiffre tout à fait symbolique, parce que 40, ça fait pas se penser aux 40 ans dans le désert. Ça fait penser aussi aux 40 jours de la tentation, évidemment, et puis bien plus près de nous, puisqu'on est en confinement, si je puis dire, ça fait penser à la quarantaine, 40 jours de confinement qui étaient imposés lorsqu'il y avait la peste. C'est-à-dire, ça date de cette époque-là. Vous voyez que le chiffre 40 est extrêmement symbolique et qu'il a été récupéré et utilisé dans l'histoire. Je veux dire, bon, il y a d'autres traditions qui mettent la Pentecôte tout de suite après, qui mettent l'Ascension tout de suite après la résurrection. Je veux dire, il y en a d'autres qui donnent d'autres dates, effectivement, voilà. Bon, 40, c'est le nombre de jours qui a été retenu. Ensuite, ce 40, évidemment, qui fait référence au désert, hein, fait référence à la loi aussi, à la résurrection et ainsi de suite. Et on pense aussi au lieu de l'Ascension. Ce lieu, c'est le Mont des Oliviers. Et c'est-à-dire que c'est un des grands lieux de la révélation. Donc, l'Ascension, c'est quand même une fête qui est très chargée théologiquement parlant. Alors, il est vrai que dans la Bible, les hommes dont Dieu s'occupe, après leur mort ou juste avant, et qu'il prend avec lui, finalement, sont assez rares. Il y a le mystérieux Enoch, hein, dont on a lu l'histoire. Vous voyez, il n'y a pas plus que deux versets dans la Genèse, dont il dit qu'il a suivi les voies de Dieu. Et je dois dire que dans la liste des patriarches, qui va de Cain à Noé, précisément, c'est le seul qui a suivi les voies de Dieu. Peut-être que le fait de suivre les voies de Dieu implique, je dirais, par ricochet, si je puis dire, ou par logique, le fait de monter au ciel, comme cela, tout vivant, et pour être, comme le disent les commentaires bibliques, à la droite de Dieu. Mais Noé n'a pas laissé un grand souvenir dans la Bible. Il faudra attendre les écrits intertestamentaires du 1er siècle, l'époque de Jésus, si vous voulez, pour avoir l'Ascension d'Enoch, un petit livre apocryphe qui est juif, qui a été écrit à ce moment-là. Le deuxième personnage qui bénéficie de l'Ascension, je ne vous ai pas lu son histoire parce que c'est un petit peu long, c'est Élie. Élie, hein, qui lui aussi est enlevé au ciel tout vivant. Et un peu comme Enoch, Élie, c'est un champion du yavisme, c'est un champion de Dieu et de la justice de Dieu. Élie a mal à partir avec la royauté de Samarie, qui est franchement païenne. Hein, Akab et Jézabel, hein, n'ont pas laissé un souvenir de fidélité à Dieu qui soit très grand. Dire. Il rejoint Enoch et avant de quitter cette terre, il passe le relais à Élisée, il lui donne deux parts de son esprit à la demande de ce dernier. Alors le troisième, et puis l'aventure continue évidemment avec Élisée. Le troisième, c'est Moïse. Moïse, lui, il meurt. Au bord de la terre promise. Elle est du côté de Moab, en Jordanie si vous voulez, il est en Jordanie, là sur le plateau, et il voit la terre promise, mais il n'y entre pas, puisque Dieu le rend responsable un petit peu de toutes les révoltes que le peuple a pu faire pendant la traversée des 40 ans dans le désert. Il y en a quand même pas mal, hein, finalement. Donc Moïse va conduire le peuple jusqu'à l'entrée de la terre promise, mais il n'y entrera pas, il va mourir là, mais Dieu s'occupe de Moïse, de telle sorte qu'on ne sait pas où est le tombeau de Moïse, même si on le cherche, c'est un gros fantasme, là, trouver le tombeau de Moïse, hein, et il y a quelques mois, on pensait l'avoir trouvé même, les grâces au ciel, ce n'était pas et c'est pas le cas. Ce serait sûrement le sujet à de nouvelles disputes, donc c'est pas la peine. Donc voilà. Donc tous les cas, Moïse est dans les mains de Dieu aussi. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'on retrouve Moïse et Élie, les deux grands dont Dieu s'est occupé au moment de la transfiguration avec Jésus. Voilà. Alors, vous me direz le texte de la création. Le texte de la création, pourquoi je vous l'ai lu? Parce que ces disparitions de personnages et la création sont intéressantes. Parce qu'à la fin de la création, Dieu se retire encore plus qu'au début. Un des principes de la création, si vous voulez, de l'acte créateur de Dieu, c'est que Dieu n'est pas la création, Dieu n'est pas complètement impliqué dans la création, il est en vis-à-vis de la création, parce qu'il crée par sa parole. Donc il y a une distance entre Dieu et la création pour qu'advienne cette parole créatrice, précisément. Voilà. Donc Dieu étant vis-à-vis, et il crée pendant 6 jours, et le 7e jour, il bénit, et puis la création va continuer, finalement, après ce sabbat. Et ça, je crois que c'est tout à fait intéressant de le voir, hein, de voir ce retrait de Dieu qui laisse l'homme continuer finalement cette création, l'homme qui a nommé les bêtes, qui est le gardien de l'Éden finalement, voilà. Mais l'homme aura la responsabilité de la création. Alors, quand j'ai écrit ce texte, j'ai mis entre parenthèses un point d'exclamation et un point d'interrogation avec la responsabilité, parce qu'on ne peut pas dire que l'homme était un très très bon gardien de la création. Mais enfin, ça c'est une autre histoire, si vous voulez, mais ce qui est intéressant, c'est de constater que Dieu crée et que Dieu passe en quelque sorte le relais à l'être humain et à la création elle-même pour qu'elle continue son évolution. Moïse, lui, il est enlevé, il laisse le peuple seul aussi. Il laisse le peuple seul pour entrer en Canaan. Bon, c'est Josué, vous me direz, il y a eu la loi aussi qui a été donnée pendant la traversée du désert. Bon, Josué et les juges vont continuer l'aventure pour le peuple, hein, dire, et voilà. Quant à Élie et Élisée, ce qui m'a intéressé dans cette ascension d'Élie et le passage du relais à Élisée, c'est que ça n'est plus la création tout entière, ça n'est plus avec l'humanité, ça n'est plus que le peuple hébreu, mais c'est de personne à personne. Voilà, Élie laisse Élisée seul avec son esprit. Voilà, c'est-à-dire que la création, le genre humain, le peuple, un humain, etc., hein, c'est comme si Dieu voulait placer ces différents éléments et nous placer nous-mêmes en situation de responsabilité. Finalement, hein, nous avons à gérer nos vies individuellement, collectivement et avec la création. Situation de responsabilité et de liberté aussi, bien sûr. Dieu se mêle pas trop de nos affaires, si je puis dire. Nous avons la liberté d'aller dans un sens ou dans l'autre, hein, de gérer comme on l'entend, ce qui n'est pas sans créer quelquefois quelques bavures importantes. Et puis surtout, je crois que le fait que les maîtres, je dirais les maîtres, c'est-à-dire Dieu, Élie, Moïse, etc., s'effacent, dire, c'est qu'ils ont confiance. Ça signe, en fait, la confiance que Dieu a en l'humain, d'une certaine manière. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de vraiment extrêmement important. C'est déjà dans la première alliance, qu'on appelle improprement l'Ancien Testament, c'est un peu péjoratif, je préfère la première alliance. Dans la première alliance, c'est déjà la bonne nouvelle qui est en germe. Je crois que c'est tout à fait important de le souligner. C'est d'autant plus important de voir cette confiance que Dieu place en nous que tous ces maîtres qui sont là et tous ces agissent et sont soustraits au regard des hommes. Dans des moments soit difficiles, soit dramatiques. La création, c'est pas si évident, faut la réussir. Dieu voit que c'est bon au fil des jours et que c'est très bon à la fin même. Voilà. Mais Moïse, c'est l'exode, la fuite hors d'Égypte. Élie, on a dit un mot avec Achab et Jézabel, à un moment donné où le peuple et les rois sont en train de percer dans le paganisme. Donc voilà, on a des moments difficiles, dramatiques. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est de voir malgré tout cela, que Dieu n'abandonne pas le monde, d'une part, qu'il suscite à chaque fois les hommes ou les femmes qui vont porter le flambeau, si tu dirais, redonner du courage, remettre la pendule à l'heure, comme on dirait aujourd'hui. Et donc Dieu n'abandonne pas. Et je crois que c'est tout à fait intéressant de le voir, même dans des moments qu'on pourrait juger difficiles. C'est donc quelque chose qui est porteur d'espérance au final. Dire que nous soyons des humains collectifs, donc comme le peuple au niveau collectif, hein, comme le peuple d'Israël ou les patriarches, l'ensemble des patriarches, hein, qui ne suivent pas les voies de Dieu, il y en a quand même un qui le fait, je veux dire, ou que ce soit individuel, il n'y a pas de problème. Dieu est là, présent, d'une manière ou d'une autre, prêt à susciter toujours quelqu'un qui nous remette sur la bonne voie, finalement, après nous avoir donné quelques enseignements pour pouvoir continuer la route. Je crois que Jésus s'inscrit dans ses ascensions. Jésus s'inscrit complètement dans ses ascensions. Il y fait suite, hein, mais il est évident que le récit de l'ascension de Jésus est beaucoup plus lourd de théologie, effectivement. Alors, je voulais dire ceci, c'est que la résurrection a apporté une espérance et une révélation décisive, bien sûr. Et dans la résurrection et dans l'ascension, Jésus laisse apparaître sa divinité. Et je trouve qu'il est tout à fait intéressant que Jésus s'en aille. Si Jésus restait présent, matériellement parlant, je dirais, comme il était présent pendant ses 40 jours pour parfaire l'enseignement qu'il va communiquer à ses disciples, en particulier le témoignage de la résurrection, il n'empêche qu'à un moment donné, la présence réelle eût été trop lourde. Car que faire face à Dieu, face à Jésus? On ne peut pas tenir finalement face à la divinité, et je crois que la sagesse de Dieu, c'est justement de savoir se retirer comme il l'a fait pour la création. Hein, et la sagesse des maîtres, c'est de savoir se retirer pour laisser la place aux disciples. Si le maître est là, parfait, eh bien le disciple ne peut pas prendre son envol. Et ça lui est difficile. Si le maître s'étouffe et tout, le communique de manière parfaite, il n'y a plus rien à faire en face de lui. Finalement, et il y a simplement le risque de ne pas l'écouter, le risque d'être bloqué, le risque de créer quelque chose qui serait de l'ordre d'une obligation légale, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il y a une perte de liberté, une perte d'autonomie. Je crois qu'il est tout à fait intéressant, donc du coup, voir que Jésus puisse se retirer du monde comme Dieu l'a fait de la création, comme Moïse l'a fait dans sa mort, et ainsi de suite, et où Élisée, etc. Et ici, Jésus se révèle vraiment comme Dieu. Il se révèle comme Dieu, il y a deux choses qui me le font dire. Il y a d'abord la nuée. La nuée, c'est vraiment la manifestation de Dieu pour quelqu'un. On trouve la nuée dans l'Exode, bien sûr, puisque c'est la nuée qui guide le peuple dans le désert. On trouve cette nuée au moment de l'ascension d'Élie, bien sûr, et on trouve cette nuée au moment du ministère de Jésus. La naissance de Jésus commence par la nuée, l'ombre, hein, l'ombre de Dieu, l'ombre de l'Esprit va se poser sur Marie. L'ombre, c'est jamais que la nuée en plus léger, si je puis dire, mais pour la procréation, je trouve que c'est peut-être plus intéressant d'avoir une ombre plutôt qu'une nuée un peu épaisse, évidemment. On va trouver la nuée avec la transfiguration, d'ailleurs, où il y aura, donc, comme je disais tout à l'heure, Moïse et Élie, dire, voilà. Donc cette nuée-là, elle dit véritablement que Dieu est présent avec la personne, ce qu'on appelle des théophanies, des manifestations visibles de Dieu. De plus, Jésus va au ciel, c'est-à-dire l'endroit où est Dieu, et dans les commentaires, il est appelé, les commentaires que j'ai pu lire sur l'ascension, Jésus est ainsi appelé à être assis à la droite de Dieu. Mais il y a beaucoup plus fort, c'est la présence des deux anges, les deux personnages qui sont les deux anges, qui sont là, et qui rappellent eux aussi la naissance de Jésus, puisque c'est un ange qui, Gabriel, qui annonce à Marie la naissance de Jésus. Il y a les anges qui annoncent la naissance de Jésus au berger, d'ailleurs, donc voilà. Mais il y a des anges aussi, les chérubins de l'Éden, qui sont là, qui ferment l'Éden, vous savez. Mais surtout, 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 il y a les anges qui sont, je dirais, à deux points très très forts, c'est la tentation et puis Gethsémani, bien sûr. Mais il y a la Shekhinah. Il y a la Shekhinah. Alors la Shekhinah, c'est le coffre, hein, c'est un coffre qui, je me trompe, peut-être en bois d'acacia, je voudrais pas dire de bêtises. C'est un coffre qui contient les tables de la loi qui sont réputées avoir été écrites de la main de Dieu, et c'est le lieu où se trouve Dieu. Et la Shekhinah était dans la tente de la rencontre, dans le désert, et la Shekhinah, évidemment, était dans le temple de Jérusalem. Le couvercle de la Shekhinah est surmonté de deux anges qui gardent le coffre. Ces deux anges qui sont avec Dieu, finalement, et qui gardent Dieu, on les retrouve au moment de la résurrection. On les trouve au moment de la résurrection et du tombeau vide, lorsque Marie Magdala, Pierre et quelques autres vont au tombeau, le tombeau est vide et il y a les deux anges. C'est comme si le coffre était vide avec les deux anges. Jésus n'est plus dans le coffre, il n'est plus dans le tombeau. Et ça, je crois que c'est tout à fait essentiel. Jésus n'est plus dans le coffre, il n'est plus dans le temple, il n'est plus dans le tombeau. Jésus n'est pas là où on croit, finalement. Et je crois que c'est tout à fait intéressant de le dire. Il disparaît de notre vue. Hein, on n'a pas besoin de le chercher. Je veux dire, on n'a pas besoin de le chercher parce que ici, le but, ce n'est pas la rencontre avec le Christ, mais c'est de vivre du Christ. Pas tout à fait tout à fait la même chose. Hein, voilà. Alors vous me direz, mais si Jésus n'est pas dans la Shekhinah, si Dieu n'est pas dans la Shekhinah, pardon, bon, si Jésus n'est pas dans le tombeau, si Jésus n'est plus sur terre, avec cette injonction des anges qui disent, ne cherchez pas des personnages, ne le cherchez pas, hein, et même pas le chercher au ciel, ça vous dépasse de toutes les manières. Comment faire pour vivre la bonne nouvelle du royaume, finalement, hein, la responsabilité, la liberté et la confiance que Dieu place en nous. C'est quand même une question qui se pose. Alors, pour répondre à cette question, je vois deux promesses et trois voies. La première promesse, c'est celle du Saint-Esprit. Jésus est absent, mais son Esprit vous est promis. Vous avez un mode de présence qui est nouveau, que vous allez avoir. Finalement, donc c'est une promesse qui est là, cet esprit qui est la puissance de Dieu, puis une puissance dynamique et dynamisante aussi. Hein, c'est la puissance active qui est là, qui permet le face-à-face avec Dieu. C'est une puissance qui est personnalisante aussi. Je crois que c'est important de le signaler. Je crois que face à l'ego de Dieu qui dit ego eimi, moi je suis, hein, face à la présence de Dieu, à l'être de Dieu, nous pouvons dire nous aussi, moi je. Hein, moi j'ai une identité, etc. Je crois que c'est tout à fait intéressant de voir que, quelles que soient nos cultures, hein, finalement, les époques, bien sûr, avec des tas de différences qu'il pourrait y avoir entre les cultures et les manières de vivre des uns et des autres, il y a quand même cette idée d'une personne, de la personne humaine qui doit émerger, de l'identité humaine qui doit émerger, l'identité qui est toujours, toujours unique, finalement. Hein, l'Esprit de Dieu fait surgir notre être, finalement, pour la vie. La deuxième promesse, elle est intéressante, c'est aussi, il reviendra. Il reviendra, donc ne vous inquiétez pas, mais surtout ne cherchez pas. Ne cherchez pas d'abord savoir où il est, ce que je disais tout à l'heure, et savoir quand ça va se passer. Il ne faut pas tomber dans cette idée que on est à la fin des temps, que la fin des temps va arriver, etc. Chaque fois qu'il y a une catastrophe, il y a toujours des gens pour dire, vous voyez, il va revenir, c'est la fin des temps, etc. Bon, on n'est pas du tout dans ce type de spéculation. On est dans le domaine de la promesse. La promesse, c'est quelque chose d'important. Parce que la promesse, ça affirme finalement un futur. Et c'est ça qui est intéressant. C'est un futur où il y a Dieu qui va se manifester de manière glorieuse, si on peut dire, évidemment, hein, mais qui, en attendant, c'est un futur qui affirme une présence dans une absence, finalement. Présence dans l'absence dont la localisation est intéressante. Mettre Jésus au ciel ou Dieu au ciel, avec Dieu au ciel, c'est emboîter le pas de certains psaumes qui disent que Dieu est au ciel et que du ciel il voit tout. C'est vrai que lorsqu'on est en hauteur, eh bien, on a un horizon qui est évidemment beaucoup plus grand que lorsqu'on est sur le sol. Mettre Dieu et Jésus au ciel, hein, c'est affirmer peut-être physiquement l'éloignement de Dieu, hein, qui est toujours insaisissable d'une certaine manière, mais c'est aussi affirmer que le regard de Dieu est posé sur nous. Alors c'est, oui, mais alors si on tombe sur l'œil de Caïn dans la tombe, là, chanté par Victor Hugo là, dans la légende des siècles, et de certains psaumes aussi, c'est vraiment la culpabilisation. Bon, après tout, pourquoi pas, on peut toujours voir le regard comme étant inquisiteur, d'une certaine manière. Mais le regard n'est pas toujours inquisiteur. Il y a des regards de toutes sortes qui expriment les sentiments humains, la passion, l'amour, la compassion, et ainsi de suite. Pardon, et ainsi de suite. Enfin bon, hein, je veux dire, il y a des pleurs qui viennent, qui sont exprimés par les larmes, le rire et ainsi de suite, un regard rieur, hein, voilà. Donc le regard de Dieu, c'est tout ça. Je crois qu'il ne faut pas le perdre de vue, évidemment. Et je trouve ça intéressant de relire la Genèse, parce que si Dieu se retire de la création, alors que l'homme, Adam et Ève, donc le genre humain, reste sur la création, dans la création, il n'empêche que Dieu ne laisse pas Adam et Ève tout seuls. Il ne les laisse pas tout seuls, même quand Adam et Ève sont sortis du jardin d'Éden, puisque, comme je vous l'ai souligné une ou deux fois dans mes cultes ou nos rencontres, Dieu va les habiller de peau de bête. C'est-à-dire que Dieu est préoccupé finalement par le devenir d'Adam et Ève et qu'il les accompagne. D'ailleurs, les prophètes sont là pour nous signifier que le regard de Dieu est toujours posé sur son peuple et sur le monde, et que lorsque les choses dérapent dangereusement, eh bien, il y a la parole de Dieu qui surgit là par l'intermédiaire d'un prophète ou d'une prophétesse. Parce qu'il y a deux ou trois prophétesses qui sont citées dans la Bible. Les choses se remettent un petit peu en place, si je puis dire. Donc le regard de Dieu n'est pas qu'accusateur, culpabilisateur, il a bien d'autres qualités, bien évidemment. Voilà, donc on a cette promesse sous le regard de Dieu, qui n'est pas seulement d'une dynamique interne, mais qui est vraiment intériorisée, voilà. Mais qui est aussi externe. La promesse et l'Esprit Saint vont permettre à l'homme de regarder devant. La première voie, c'est de bouger. La première voie des trois voies dont je vais parler, c'est de rencontrer, c'est de prêcher, c'est de témoigner, je veux dire. De témoigner parce que non pas parce que on va chercher Dieu, dire voilà, et Dieu est ici et là, mais c'est parce que Dieu est dans le cœur des hommes. Si on prêche, c'est que on a confiance en Dieu et qu'on a confiance en nos frères et sœurs, parce que Dieu est aussi en eux autant qu'en nous, et que dans prêcher, on espère que ça va résonner entre eux d'une manière ou d'une autre, et que la prédication portera ses fruits. Et le témoignage aussi, et la vie que l'on va donner, va porter ses fruits. Donc la première voie, c'est de bouger, hein, et de vivre. Je crois que la bonne nouvelle, celle qui nous touche finalement, c'est un appel extraordinaire à la vie et à l'optimisme finalement. La deuxième voie, c'est la prière. La prière, c'est le signe d'une espérance. Moi, si j'espère pas en Dieu, je prie pas Dieu, évidemment. Et on va prier Dieu parce qu'on a confiance en lui, ni plus ni moins. Je veux dire. Et donc, lorsque les anges sont là, ils disent aux disciples réunis, bah, écoutez mes bons amis, il reviendra. Il y a une promesse qui est là, dire regardez vers l'avenir, avancez, regardez par devant vous et allez-y. Hein, c'est un signe d'espérance. c'est un signe d'espérance, la prière. Alors, bon, ça marque nos cultures. Je sais qu'il y a des cultures qui vivent dans le présent uniquement et non pas du tout dans le futur. Question de culture, mais je pense que on pourrait trouver des signes d'espérance dans ce type de culture aussi, évidemment. Alors, c'est aussi intéressant, cette deuxième voie, ce n'est plus seulement le signe de la foi de Dieu en l'homme, mais c'est aussi le signe de la foi de l'homme en Dieu. Même si, dans nos prières, on peut se tourner vers Dieu pour lui demander des comptes. Bien évidemment, si on est écrasé par le malheur, on peut se tourner vers Dieu, on dit, écoute, gloire à toi, mais voilà, mais pourquoi il m'arrive ceci ou cela. La troisième voie, c'est la communauté. La communauté, c'est intéressant, c'est qu'on est 40 jours après Pâques, hein, on est vraiment, tout à fait au début de l'aventure. Ils sont vraiment une poignée. Et moi, ce qui m'intéresse dans cette communauté-là, qui est le témoin de cet événement qui est l'Ascension, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a évidemment les apôtres. Alors, il n'y a pas les 12, il y a encore, puisque Mattathias n'est pas encore élu, ils sont les 11, évidemment, mais il y a aussi les frères de Jésus. C'est intéressant de voir que ces frères de Jésus qui n'avaient pas reconnu Jésus au cours de son ministère font partie maintenant du collège apostolique, si je puis dire. Et d'ailleurs, Jacques, le frère de Jésus, deviendra le chef de la communauté de Jérusalem, une fois qu'il sera mort lapidé d'ailleurs. C'est Jude, son deuxième frère, qui sera évêque de Jérusalem, et après Jude, ce sera José. Donc on a les trois frères de Jésus, une dynastie christique à la tête de l'église de Jérusalem. Voilà. Mais ils sont là, ces frères, ils sont là avec le collège apostolique. Mais il y a aussi des femmes, des femmes avec, dont Marie qui est citée, et d'autres femmes. On peut toujours imaginer quelques autres femmes qui sont là, en particulier Marie Magdala, évidemment, mais ce n'est pas la seule. Il peut y avoir Suzanne qui a été citée par Luc, et peut-être la syrophénicienne, je ne sais pas. Moi. Voilà, on peut toujours aller. Mais enfin, ils sont une poignée, ils sont là, et donc avec des femmes. Et lorsqu'on regarde l'histoire de l'Église ancienne, c'est tout à fait intéressant de voir que les femmes vont y jouer un rôle extrêmement important, puisque certaines d'entre elles seront diacre ou évêque, chef de communauté, chef-taine, on dirait, de communauté. Voilà, donc ça, malheureusement, l'histoire de l'Église n'ira pas tout à fait dans le sens du féminisme, mais ça, c'est une autre histoire, malheureusement. Mais dans tous les cas, ce qui est intéressant, c'est que la troisième voie, c'est la communauté. C'est cet être ensemble qui n'exclut personne, qui n'exclut personne. Tous ceux de l'aventure, ils sont là, finalement, ils sont présentés là, avec certains qui, qui étaient critiques, négatives, mais qui finalement vont adhérer, et ainsi de suite. Donc c'est aussi quelque chose qui est de l'ordre de la bonne nouvelle, parce que créer une communauté qui n'exclut personne, où chacun, chacune aura une place importante, qui soit égalitaire, c'est, je crois que c'est quelque chose auquel nous aspirons tous, étant entendu que dans la liberté et la diversité, évidemment, il y a toute une richesse humaine qui puisse s'exprimer. Voilà. Donc l'Ascension, vous voyez, c'est un petit peu tout ça réuni, c'est un petit peu tout ça, c'est cette bonne nouvelle qui est communiquée de cette manière finalement, qui nous est communiquée, avec ce mouvement extraordinaire qui s'achève là, d'une aventure assez formidable, qui est l'investissement de Dieu dans le monde, qui descend dans le monde et qui remonte au ciel, et finalement que les théologiens vont reprendre et commenter à l'infini. C'est l'ultime chemin, l'ascension, que Jésus nous ouvre et ouvre vers Dieu, pour que les hommes soient finalement un peu comme Enoch, ceux qui suivent les voies de Dieu. Et si on réalise bien qui est ce Jésus qui a vécu parmi nous, qui est comme nous, qui s'est investi, etc., qui est allé jusqu'à la mort pour nous signifier l'amour de Dieu et qu'on suive sa voie, eh bien, nous serons comme Enoch, finalement. Et nous goûtons par la foi, bien sûr, par la confiance, les prémices du salut. Et véritablement, ce que Paul va développer dans l'Épître aux Romains. Dieu nous veut libres, fidèles, actifs et priants. Et Dieu, en fait, nous veut des vivants, finalement. La Bible, c'est l'aventure du vivant. L'amour de Dieu se manifeste ici par l'absence, présence, hein, qui s'affirmera dans quelques jours à Pentecôte avec le don du Saint-Esprit. Comme le disent les anges, ben, il viendra, il est là, il est déjà là. Il est là dans le cœur des hommes, il est dans le cœur des hommes et il est présent jusqu'aux extrémités de la terre, en passant par Jérusalem et par bien d'autres lieux. Et c'est bien pour ça que ces apôtres, ce collège apostolique, cette poignée d'êtres humains, garçons et filles, qui assistent à l'ascension, quelques jours après, vont partir à la conquête du monde pour annoncer une bonne nouvelle qui est là pour nous toucher et nous faire vivre. Amen. Les paroles d'institution. Le Seigneur Jésus, la nuit où il fut livré, prit du pain, après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, prenez, mangez, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Ainsi, toutes les fois que vous mangez de ce pain, que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne. Enfin, je vous invite à prier Dieu. Père, à 2000 ans de distance, ce partage nous semble bien lointain. Et pourtant, vécu jour après jour, de communauté en communauté, ce partage vient nous atteindre les uns et les autres pour nous dire qu'il y a dans le geste du partage un geste de communion, de fraternité et d'amour qui traverse le temps et les espaces. Oui, Père, nous devons vivre tout cela. Alors que nous sommes les uns et les autres d'horizons différents, divers, avec des questionnements, avec des doutes, peut-être avec quelques rancœurs à ton égard, nous sommes là, nous te prions pour que nos cœurs soient purifiés par la puissance de ton esprit, par la force de ton pardon et par la grâce. Nous prions pour que nous puissions vivre de ta présence, vivre la vie telle que tu l'imagines peut-être pour chacune et chacun d'entre nous. Vivre dans la dignité, dans la liberté, bien sûr. Envoie ton esprit sur chacune et chacun d'entre nous, pour que nous puissions réaliser que dans ce partage du pain et du vin, il se passe quelque chose qui nous dépasse infiniment et qui nous dit ta présence au monde, malgré l'éloignement. Père, nous sommes là. Nous sommes venus avec nos moyens et nous sommes séparés par la distance les uns des autres, mais bien proches en esprit, avec le pain et le vin qui sont là devant nous et qui signifient par ce partage l'Église, cette communauté qui se retrouve en ta présence. Ils étaient peut-être 20 ou 30 au départ, compagnons et compagnes. Aujourd'hui, ils sont une foule répartie sur toute la terre. Et ils sont partis avec la force de ton esprit, la certitude de ta présence. Ils sont partis pour partager les signes du royaume partout, partout où il y a de la vie et des êtres humains. Viens, Seigneur Jésus, viens que nous puissions vivre les uns des autres cette dimension du royaume. Amen. Voici, dit le Seigneur, je me tiens à la porte et je frappe. Et si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai la scène avec lui et lui avec moi. Le Maître nous appelle, venons prendre la scène avec lui. Amen. Voilà, il y a devant nous peut-être, je ne sais pas, du pain. Chez moi, c'est un petit morceau de toast. Peut-être avez-vous un petit bout de baguette ou un petit morceau de pain de campagne, je ne sais pas. Mais il y a ce morceau de pain qui est là, qui signifie la nourriture essentielle et qui pour nous, en cet instant, signifie la présence de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et puis peut-être avez-vous du vin devant vous ou un jus de fruits ou je ne sais pas.